Lorsque Jessica était petite, je tiens à préciser que je lui ai demandé l'autorisation de vous raconter ça. Lorsqu'elle était petite, oui, elle a été petite, hein, maman, si, elle n'est pas née comme ça, il arrivait que je lui donne son bain. Donc, il y a très longtemps, quand même. Ça prenait des heures de lui donner son bain. Parce qu'une fois dans l'eau, il fallait que je lui donne aussi tous ses objets aquatiques. Il en avait tellement dans l'eau qu'on ne voyait plus l'eau, en fait. La surface de l'eau disparaissait en dessous des jouets. Et un jour, alors que je l'avais sortie de l'eau et que j'essayais de l'essuyer, elle s'est mise à danser, ce qui rendait l'opération séchage extrêmement compliquée et forcément beaucoup plus long. Ma fille exprimait simplement sa joie d'avoir pris son bain, sa joie de ce qu'elle allait se coucher et de ce que sa maman lui lirait une histoire, sa joie d'être là, tout simplement, que ce moment soit là, et puis l'autre encore, et le suivant. C'est ce que font souvent les petits-enfants. Ils célèbrent le moment présent. Ils n'ont pas encore appris à se projeter et à passer à côté de l'essentiel. Et moi, en tant qu'adulte, ça m'horripilait. Alors la question, c'est pourquoi? Enfin, la vérité, c'est que je n'en sais strictement rien. Je n'avais pas de réunion prévue ce jour-là, ou sinon je l'aurais pas donné son bain, pas de sermon à préparer. Rien, aucune activité m'empêchant de profiter pleinement de ce moment avec ma fille. En fait, j'étais tout simplement trop habitué à courir, à me préoccuper de mon petit agenda, tellement en train de passer d'un truc à l'autre que la vie était là, la joie était là devant moi, en train de danser, de remuer devant moi. J'aurais pu danser avec elle, me réjouir avec elle. Ben non, je suis passé à côté. Alors j'aimerais vous dire que chaque fois que j'ai pris un bain, enfin j'ai pris un bain, que ma fille a pris un bain, que c'est moi qui lui ai donné. J'ai été disponible pour elle. La réalité, c'est que la réflexion, ça n'était pas le cas du tout. Alors, en réfléchissant à ça, je dois bien admettre que j'ai passé la plus grande partie de ma vie en transit à essayer d'aller quelque part, attendant de commencer quelque chose, me déplaçant en voiture d'un point à un autre, essayant d'arriver au bout de la tâche suivante, m'inquiétant pour quelque chose de mal risquant d'arriver, ou me laissant contrarier pour quelque chose de mal qui était arrivé. Ce sont tous des moments où je n'ai probablement pas été pleinement présent et surtout pas conscient du plan de Dieu pour moi et certainement pas sensible à sa voix. Je sais pas pour vous, mais moi, de nature, je suis un impatient. J'ai passé une bonne partie de ma vie à littéralement tuer le temps. Pas que je n'en faisais rien, mais je le tuais parce que je n'étais pas présent dans ce temps. Et si je veux être totalement honnête, c'est juste une manière gentille de dire que je me tuais moi-même en fonctionnant comme ça. Sécher ma fille était donc simplement une activité dont j'essaye d'être quitte. Et en plus, quand vous le faites, parce que soi-disant vous servez Dieu, alors tout le monde, on est encore dans un autre domaine, dans une autre dimension. Alors très ironiquement, je crois que ce qui nous empêche d'expérimenter la joie, c'est nous. C'est ce moi égocentrique qui nous empêche de prendre part à la joie des autres. Et c'est ce même égocentrisme qui nous empêche également de relever et de nous réjouir de la myriade de petits cadeaux que Dieu nous fait tous les jours. La joie de ma fille, de ma petite fille ce jour-là, était un de ces cadeaux et je ne l'ai pas perçu comme ça. Jessica se contentait en fait de vivre. Prendre son bain était un moment de joie. Se chercher était apparemment pour elle un moment de joie et le moment suivant le serait aussi. La vie, mes amis, est une série de moments de joie à célébrer, mais nous avons oublié. Alors, je vais parler de la joie, donc on va éviter trop de parler de la souffrance, mais je ne suis pas idiot. Un de mes problèmes, c'est que je passe ma vie dans la souffrance des autres, donc c'est clair que j'ai peut-être plus de mal que quelqu'un d'autre à me réjouir. Parce que je côtoie des gens qui vont pas bien. Mais alors je suis tout à fait conscient donc que tous les instants de la vie ne sont pas heureux. Il y aura toujours des occasions de pleurer avec d'autres, de se mettre à genoux et de servir douloureusement, bien entendu. Mais chaque instant est chargé de possibilités. Jessica, du moins à l'époque, n'en ratait pas beaucoup de ses possibilités de se réjouir. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'elle m'enseignait la joie. En live, en direct. Combien de parents sont-ils conscients que leurs enfants leur enseignent en fait tous les jours quelque chose, en particulier peut-être sur le sujet qui nous importe aujourd'hui, en particulier concernant la joie. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai un problème avec la joie et je pense malgré tout nous avons tous besoin d'apprendre. Car la joie, et c'est ça qui est important, est au cœur du plan de Dieu. Alors vous allez peut-être me demander pourquoi est-ce au cœur du plan de Dieu. C'est très simple en fait. Chaque fois que quelque chose est au cœur du plan de Dieu, c'est parce que ce quelque chose fait partie intime, profond de sa personne, de son être. Et nous ne comprendrons donc jamais la signification de la joie pour nous si nous ne la comprenons pas pour Dieu. La joie que nous percevons dans l'attitude d'un petit enfant n'est qu'une infime fraction de celle contenue dans le cœur de Dieu. C'est J.K. Chesterton, que vous connaissez certainement, un écrivain anglais du XXe siècle qui en parle le mieux. Il est beau, hein? Il était souvent en joie. Donc il a fait un gros travail. Voilà ce qu'il dit. Écoutez bien. C'est parce que les enfants possèdent une abondante vitalité, parce que leur esprit est libre, qu'ils désirent que les choses se répètent et demeurent inchangées. Ils disent toujours « encore », les petits, hein, « refais-le », « recommence ». Et l'adulte recommence jusqu'à ce qu'il soit presque mort. Parce que les adultes ne sont pas assez forts pour exulter, donc pour avoir de la joie, dans la monotonie, dans la répétition. Mais peut-être que Dieu, lui, est suffisamment fort pour exulter dans la monotonie. Il est possible que tous les matins, Dieu dise au soleil « refais-le, encore ». Et chaque soir, qu'il dise à la lune « encore, refais-le ». Ce n'est peut-être pas une nécessité automatique qui fait que les marguerites sont toutes semblables. Il se peut que ce soit Dieu qui fasse chaque marguerite séparément, mais qu'il ne s'est jamais fatigué d'en faire. Il est possible qu'il ait un appétit infini pour les choses de l'enfance, parce que nous avons péché et sommes devenus vieux, et que notre Père est plus jeune que nous. C'est joli, hein? Alors, vous savez que quand je réfléchis, je suis parfois fond dans des trucs, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Je vais à présent vous demander de faire un petit effort d'imagination. Imaginez un instant comment les premières lignes de la Bible, donc la Genèse, la création, auraient pu être écrites si Dieu n'était pas un être extrêmement joyeux. Alors, j'ai fait l'exercice pour vous. Donc, si Dieu avait approché son travail, ou plus généralement la vie, de la façon dont nous l'approchons souvent. Ça aurait pu donner ça. Au commencement, il était 6 heures du matin. Et Dieu devait se rendre au travail. Il remplit une demande en triple exemplaire de séparation entre la lumière et les ténèbres qu'il adressa à lui-même. Il considéra ensuite la possibilité de faire les étoiles pour magnifier la nuit et les planètes pour remplir les cieux. Mais il pensa que cela représentait trop de travail. Et de plus, se dit-il, c'est pas mon boulot. Il décida de laisser tomber la nuit et fit le jour. Il jeta un coup d'œil à ce qu'il avait fait et dit, c'est déjà bien assez comme ça. Le deuxième jour, Dieu sépara les eaux et la terre. Il fit toute la terre plate, sèche et très fonctionnelle, afin qu'elle ressemble à la Flandre. Ça, j'ai pas pu m'empêcher. Il eut l'idée de faire des montagnes, des vallées, des glaciers, des jungles et des forêts. Mais il décréta que cela ne valait pas la peine qu'il se donne tant de mal. Dieu jeta un œil à ce qu'il avait fait et dit, c'est déjà bien assez comme ça. Et puis Dieu fit un pigeon pour voler dans les airs, une carpe pour nager dans les mers et un chat pour ramper sur la terre sèche et manger les pigeons et les carpes. Et accessoirement les lasagnes, parce que Garfield aime les lasagnes, pour ceux qui ne savaient pas. Et Dieu eut l'idée de créer des milliers d'autres espèces de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs, mais il ne trouva en lui aucun enthousiasme pour aucun autre animal. En fait, il n'était déjà pas très fan du chat. De plus, il était déjà l'heure de Top Chef. Ainsi Dieu jeta un œil sur ce qu'il avait fait et dit « c'est déjà bien assez comme ça. » À la fin de la semaine, Dieu était en burn-out. Il soupira et dit, « Moi, merci, c'est vendredi. » Bien sûr. Vous savez comme moi que, et c'est une chance, la jeunesse ne ressemble pas du tout à ça. Au contraire, le texte est rythmé par le refrain « Dieu dit, il y eut, et cela était bon ». Rappelez, hein. En fait, il est très content de ce qu'il fait. Le premier jour, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et Dieu vit que c'était bon. Le premier jour fut un jour de célébration, un jour de joie, et Dieu fit une petite danse. Enfin, je m'avance un peu, mais... Et le jour suivant, il dit à la lumière, « Fais-le encore !» Et Dieu dansa à nouveau. Et si je me permets de dire qu'il danse, c'est parce que des grands théologiens bien plus grands que moi, parce que moi je n'en suis pas un, ont expliqué que ce qui anime la Trinité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle la périchorèse. Et ça vient du grec « danser autour ». Choros, ça veut dire danser. Donc, c'est une danse infinie. Il danse et comprendre ça, c'est entrer dans la danse avec eux. À partir de là, il en a été ainsi de tous les jours jusqu'au jour de votre naissance. Dieu s'est réjoui tous les jours. Même le jour de votre naissance, on va dire qu'il a de la joie. Et de là jusqu'à ce jour où vous entendez ces paroles. C'est comme ça que ça fonctionne pour Dieu, que ça marche pour Dieu. Mais je ne pense pas que ça marche toujours comme ça pour nous. Souvenez-vous, nous avons péché, sommes devenus vieux, et notre Père est plus jeune que nous. Donc, nous ne comprendrons pas Dieu et la joie si nous ne comprenons pas ceci le concernant. Dieu est l'être le plus heureux de l'univers. Alors, j'ai fait allusion tout à l'heure, bien sûr, Dieu connaît la souffrance. Hein. Il est aussi un Dieu qui souffre puisqu'il aime. Dieu est passé dans l'histoire, d'ailleurs, entre autres, hein, c'est ce que le prophète Ésaïe nous dit, comme un homme méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête, nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui, bien sûr. C'est difficile de regarder la croix du Christ, Jésus en croix, et de se dire qu'il y a une joie infinie. Mais au moment où Jésus est sur la croix, il y a tant toute cette souffrance, il y a quand même cette joie profonde et intemporelle au sein de la Trinité. Et il faut aussi préciser quand même, c'est important, que si c'est complètement fou de se dire que Dieu souffre, il faut quand même comprendre que cette souffrance qui est une réalité est la réponse temporaire, j'insiste sur temporaire, qu'il exprime envers un monde déchu. Quand il regarde ce monde, ça ne le fait pas rire. Et c'est aussi l'expression d'un amour blessé. Je l'ai dit, quand on décide d'aimer, on décide de souffrir, même si ça ne vient peut-être pas en même temps. Mais en fait, décider de faire des enfants, on n'a pas réfléchi avant qu'ils allaient vous faire souffrir. Peu importe, involontairement, involontairement, ne fût-ce que s'ils tombent malades, on commence à paniquer, on est en souffrance. Ou alors devenez bouddhiste, hein, parce qu'eux, ils fuient cette souffrance. Mais ils fuient l'amour aussi, en passant. On souffre toujours quand on aime. Mais cette souffrance sera bannie pour toujours de son cœur, du cœur de Dieu, le jour où il établira définitivement son royaume. C'est pour ça que je disais que cette souffrance est temporaire. La joie est une des caractéristiques, je vais le dire comme ça, basiques de l'être de Dieu. La joie est sa destinée éternelle et la nôtre. Dieu est l'être le plus heureux de l'univers. Et le désir de Dieu, et c'est dans toute la Bible, et que sa création reflète sa joie. Rappelez-vous de ce très beau psaume, j'en en prends qu'un verset, le psaume 19. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. Ces paroles ne sont pas simplement poétiques ou très imagées. Quand on lit ça, on trouve ça beau, normalement. Sauf si on tire la tête, forcément. Mais elles expriment la joie, en fait, la joie des éléments de la création à simplement être et accomplir le dessein que Dieu a fixé pour eux. Vous rappelez, souvent je vous dis que les animaux, ils louent, ils disent merci à Dieu bien mieux que nous, parce qu'ils ne sortent pas de ce pourquoi ils ont été créés par Dieu. Même les chiens auxquels je suis allergique. Donc vous aurez compris que si la création exulte la joie de Dieu, la joie d'être ce qu'ils sont, en tant qu'être fait à l'image de Dieu, notre responsabilité de refléter quelque chose de cette joie qu'il a placée en nous. C'est d'ailleurs pour cette raison que la Bible ne parle pas seulement de notre besoin de joie en général, mais bien d'une certaine catégorie des joies de joie, pardon, qui caractérise Dieu. C'est pour ça que Jésus peut, on ne se rend pas compte dans ce texte, hein, on a étudié ce texte il y a quelques semaines, je pense à Jean 15, hein, la parabole du cep et des sarments. C'est pourquoi Jésus peut parler de joie, alors qu'il a parlé pendant je ne sais pas combien de versets, d'obéissance, alors que nous, quand on dit obéissance, la joie est absente, ça. Si vous me dites, il faut que tu obéisses, le premier sentiment qui va venir, ce n'est pas la joie. Hein. Et pourtant, tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Alors ça, c'est la motivation pour laquelle il a dit tout ce qui était avant. Le cep, les serments, vous devez demeurer en moi. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Selon Jésus, notre problème fondamental, ce n'est pas que nous sommes trop heureux, c'est que nous ne sommes pas assez, que nous cherchons sans doute et même certainement notre bonheur ailleurs qu'en Dieu. Seul endroit stable où nous pouvons rester dans la joie, c'est bien entendu dans le cœur de Dieu. Lewis Meddes, un auteur chrétien, aussi très connu, sans doute, mais anglophone tout cela, bien entendu, a dit ceci, « Passer à côté de la joie, c'est passer à côté de la raison pour laquelle vous êtes venu au monde. » Passer à côté de la joie, c'est passer à côté de la raison pour laquelle vous êtes venu au monde. En introduction, je vous ai cité ce petit texte, ce petit verset de Philippiens 4:4. Hein, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Ils doivent même se réjouir de ce que Paul est en prison pour la gloire de Dieu. L'épître aux Éphésiens est appelée l'épître de la joie. C'est fou, hein? Et la forme dans le grec de ce texte de Paul que je n'ai pas mis sur une diapo, la forme dans le grec ne laisse aucun doute. C'est un commandement, pas une option. Paul dit, vous devez demeurer dans la joie. C'est pas, tiens, ce serait bien que vous réfléchissiez à ces concepts de joie parce que c'est important au niveau thème. Non. Vous devez être, vous devez vous réjouir d'appartenir à Dieu, d'être connu de lui, d'être aimé de lui. Ce n'est pas une option. On peut donc en conclure, et je vais un peu provoquer, que un des plus gros péchés dans l'Église, il ne vient jamais à l'esprit celui-là, c'est l'abattement. Mais c'est pas seulement, et c'est ça qu'il faut comprendre, dans la pédagogie de Dieu, ce n'est pas seulement un péché contre nous d'être abattu, de tirer la tête, toujours de prendre le négatif, de ne pas voir Dieu à l'œuvre, de ne pas voir tous ces petits cadeaux tous les jours. C'est que c'est un péché contre nous. Ce n'est pas seulement au cœur de Dieu qu'on fait du mal quand on fonctionne comme ça, mais c'est à notre cœur à nous, c'est à notre vie à nous. C'est un des péchés qui est, me semble-t-il, commis par le plus de chrétiens. Il se peut même que ce soit le péché le mieux toléré dans l'Église. Parce qu'on ne le remarque pas. Vous serez rarement expulsé d'une église pour avoir manqué de joie. Peut-être, ou alors dans les milieux de Pentecôte. Moi, j'aurais bien été pentecôtiste, mais j'ai des tendinites chroniques et faire le poirier au culte, ça, avec le temps, ça commence à être difficile. Je taquine. C'est la joie. Ouais. Je me fous de la gueule des gens, mais dans la joie. Bon, on a même, dans certains milieux d'église, inventé une notion tout à fait inconnue de la Bible pour justifier les têtes allongées et l'absence totale de joie. La joie grave du Seigneur, mais je vous assure que c'est vrai. Hein. La joie grave du Seigneur. Grave. C'est grave la joie, hein, non? La joie grave. T'es mal parti là-dessus. Hein, ouais. La joie grave du Seigneur. Il faut donc se réjouir, mais dans la gravité. Si l'un d'entre vous parvient à m'expliquer cette notion de joie grave, je lui promets de ne plus rire pendant un mois. Vraiment. Pour l'anecdote, et c'est grave ça, par contre, au Moyen-Âge, on a une controverse extraordinaire au niveau de la chrétienté. Il y a les plus grands théologiens de l'époque, du Moyen-Âge, qui ont réfléchi sur le fait, est-ce que Jésus riait? Est-ce qu'il était dans la joie? Ben non. Parce qu'il n'y avait pas de quoi rire, quoi. Il était entouré d'andouilles. Il se sentait souvent seul. Ben oui. Et non, ils ont. C'est pas possible qu'il ait pu exprimer, ressentir de la joie entouré de cette bande. Enfin, je vous fais la version courte. Hein. Autrement, les textes en question sont encore disponibles dans les bonnes bibliothèques. Hein. Bon, ça en latin, ou dans un cas, on demande une grammaire latine en passant. Combien de gens Je sais bien que voilà, nous sommes comme nous sommes, hein, nous sommes tous des êtres humains, mais combien de gens se sont-ils désintéressés de Dieu parce que ceux qui étaient supposés le représenter tiraient des têtes d'enterrement? Il y a un être dans cet univers qui désire vraiment que vous passiez votre existence dans l'abattement, la dépression, même si parfois on passe par là, et que vous passiez votre vie durant à tirer des têtes d'enterrement. Il y a un être qui recherche ça, qui espère ça pour vous. Mais cet être, ce n'est pas Dieu. Voilà ce que dit François de Sales, un prêtre catholique. Le malin se réjouit de la tristesse et de la mélancolie, car il est lui-même triste et mélancolique pour l'éternité. C'est assez juste, hein, qu'on croit au diable ou pas. Bon, j'espère que quelque part vous y croyez, comme une entité spirituelle qu'on peut appeler le diable. Mais indépendamment de ça, passez votre existence en contact avec des gens qui sont négatif, amer, vous allez devenir négatif et amer. Ils vont vous épuiser votre joie. Il y a des gens qui, ce n'est pas de leur faute parfois, hein, il y a des gens qui aspirent la lumière. On est là pour la donner, hein, pour la transmettre. Il faudra la transmettre à petite dose, hein, parce que votre lumière va s'éteindre. Ça, c'est la réalité du terrain et votre joie avec. Nous sommes invités à nous réjouir de chaque moment de notre vie, tout simplement parce que chaque moment est un don de Dieu. Dans l'Ancien Testament, avant que l'on discerne les promesses d'une vie après la mort, dans la pensée vétérotestamentaire de l'Ancien Testament, la bénédiction de Dieu, c'était une longue vie remplie de joie ici. Il y a souvent des passages dans cet testament qui terminent par « Et il s'éteint, donc il rejoignit ses pères, donc il mourut, hein, heureux et rassasié de jour. » Mais à quoi ça sert, on le vient un peu aujourd'hui avec les personnes âgées dans les homes, hein, à quoi ça sert de vivre 100 ans si on vit malheureux 100 ans? Ou si on vit malheureux à partir du moment où on devient vieux? Quel intérêt ça a? Ça n'a de l'intérêt que si on est heureux même dans cette période-là de sa vie, dans cette saison-là, rappelez-vous, le message de dimanche passé. Chaque moment de notre vie est un moment de joie parce que c'est un moment de Dieu. Alors de temps en temps, c'est vrai que de temps en temps dans nos vies, mais on le comprend rarement comme ça quand ça arrive, hein, de temps en temps, le voile est levé. Dieu nous propose de faire tomber les écailles de nos yeux pour qu'on se rende compte à quel point les petits moments de nos vies sont des moments extraordinaires. C'est le cas, c'est ce qu'a compris, ça a coûté cher, mais c'est ce qu'a compris John et son meilleur ami Chuck, ce sont des gens existants, hein. Lorsque celui-ci a téléphoné à son meilleur ami pour lui annoncer qu'il avait un cancer à un stade très avancé. Les prévisions n'étaient pas bonnes. Après des mois de traitement, dont un traitement expérimental, Chuck a téléphoné à John pour lui dire que les derniers résultats catastrophiques, qui disaient « vous allez mourir en fait », étaient le fait d'une erreur du laboratoire qui avait mélangé deux dossiers. En fait, il était en rémission totale. Le cancer avait disparu. Et John n'a jamais oublié les paroles de son ami, alors qu'il pleurait de joie au téléphone. « Je vais vivre, mon ami. Je vais voir mes enfants grandir. Je vais vieillir. Écoutez, hein, je vais vieillir avec ma femme. » Chuck, à partir de ce moment-là, c'est John Otberg, le pasteur américain, qui le dit, Chuck ne pouvait pas s'empêcher de caresser les cheveux de ses enfants, de serrer sa femme dans ses bras, toutes des choses qu'il ne faisait pas avant. Ce n'était pas tactile, Chuck. À présent, il savait non plus théoriquement, mais par expérience, que cela faisait de vraiment prendre conscience de tout le bonheur contenu dans chaque seconde de vie que Dieu nous donne à vivre. Vous n'aurez rien d'autre que cette vie-ci à vivre. Et tous les moments qui font partie, qui constituent cette vie, vous n'aurez que ça à vivre, avec Dieu, avec les autres. Alors, c'est comme par rapport à tout ce que j'ai déjà dit, depuis si longtemps, nous ne le méritons pas. Toutes ces possibilités de bonheur, nous ne les mériterons pas. Nous ne pouvons pas le contrôler, parfois les tuiles tombent, c'est vrai. Et nous ne pouvons jamais le considérer comme acquis, parce que nous ne maîtrisons rien. Mais chaque tic-tac de l'horloge est un don de Dieu. Et mes amis, en tant que pasteur, moi j'ai souvent côtoyé des gens qui prennent plus de temps à mourir qu'à vivre, un jour à la fois. Et ça, pour des personnes, des êtres, des hommes et des femmes habités par la présence de Dieu, il faut réfléchir. C'est pas possible. Je suis pas en train de nier la dureté de la vie parfois. Hein. Mais Dieu reste là. Il est toujours là. Même dans ces moments-là. Chaque jour est un jour de joie que nous devons célébrer. Pourquoi est-ce que c'est important de le célébrer? Parce que ça veut dire que cette joie, on commence à en être conscient. Et on commence à se réjouir de la joie. Vous comprenez? C'est un processus intérieur. Et on n'en a certainement pas fini avec la joie. Mais la suite au prochain numéro. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.